Bonjour et bienvenue. On va commencer avec un chiffre qui, franchement, interpelle.
Ah oui.
Dans une économie comme celle de l'Europe, qui a une base industrielle quand même très solide, on a seul 13,5% des entreprises,
c'est peu,
et à peine 12,6% des PME, qui utilisent l'intelligence artificielle. C'est un paradoxe assez fou, non? On est assis sur une mine d'or, mais on n'a pas la pioche.
C'est exactement ça. Et cette fameuse pioche, eh ben c'est un peu ce que la Commission européenne essaie de nous donner avec un document clé.
Lequel ?
Celui du 8 octobre 2025. C'est la stratégie pour l'application de l'IA. Et c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui.
Notre mission, c'est donc de plonger dans ce texte, de voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. L'Europe a déjà raté des virages technologiques, on le sait.
Les réseaux sociaux, le cloud.
Exactement. Donc la question, elle est simple. Est-ce que cette stratégie est un vrai plan de bataille pour gagner la guerre de l'IA ou est-ce que c'est juste un énième document qui va prendre la poussière à Bruxelles ?
C'est toute la question.
Alors, commençons par le constat, le diagnostic. Le document le dit très clairement. L'Europe, elle est talent, elle a la recherche, l'industrie, mais l'adoption de l'IA, ça patine.
Surtout chez les PME.
Oui, surtout chez les PME, qu'on décrit pourtant comme l'épine dorsale de notre économie. Pourquoi ce décalage ?
Alors, ce qui est fascinant, je trouve, c'est que la Commission ne voit plus ça comme un simple problème de compétitivité.
Ah non ?
Non. Le mot qui revient tout le temps, c'est « souveraineté technologique ». En fait, le document acte une prise de conscience.
C'est-à-dire ?
Pendant de technologies conçues ailleurs, avec des règles et des valeurs qui ne sont pas les nôtres. L'enjeu, il n'est plus seulement économique, il est géopolitique.
D'accord, je vois. Et pour reprendre la main, la grande idée, c'est ce concept d'IA en premier. AI first en anglais.
Oui.
L'idée, ce serait d'inciter tout le monde, entreprise comme administration, à penser IA dès le départ de chaque projet. Ça a l'air simple, mais ça implique un changement de mentalité radical.
C'est bien plus qu'un slogan. C'est là que ça devient vraiment, vraiment ambitieux. Le texte parle de construire une pile d'IA européenne.
Une pile d'IA ?
Oui. Concrètement, ça veut dire qu'on se bat sur tous les fronts, en même temps. Contre les géants américains sur les modèles de langage et le cloud.
D'accord, concrètement.
La stratégie, elle est structurée autour de trois grands piliers, c'est ça ?
Un peu comme un plan d'attaque.
Exactement. Le premier pilier, ce sont des initiatives phares sectorielles. En gros, on concentre les forces là où l'Europe a déjà une carte à jouer.
Ok, ciblé.
Le deuxième pilier, il s'attaque aux défis transversaux. C'est les problèmes qui ralentissent tout le monde. Le manque de compétences, l'accès pour les PME.
Les problèmes de fond.
Voilà. Et le troisième, c'est la mise en place d'une gouvernance unique pour s'assurer que le plan est bien suivi. C'est une double approche, hein. Des frappes chirurgicales sur des cibles et en même temps, on renforce les troupes sur tout le front.
Alors ces frappes chirurgicales, ça m'intéresse. Commençons par un secteur où l'enjeu est vital, la santé. Le document est très direct. Il dit que l'IA peut sauver des vies.
Et le potentiel est énorme.
Mais les objectifs sont très pragmatiques.
Par exemple ?
Par exemple, utiliser l'IA pour des diagnostics beaucoup plus précoces de cancer, de maladies cardiovasculaires, ou alors, un point qui parle à tous les soignants, automatiser la paperasse.
Ah oui, la charge administrative.
Pour qu'ils passent plus de temps avec les patients et moins avec les formulaires.
Oui, mais bon, la numérisation de la santé, ça fait des années qu'on en parle. Les obstacles, on les connaît, non ? Les données sont éparpillées, les systèmes informatiques des hôpitaux ne se parlent pas.
C'est la bonne question.
Qu'est-ce que cette stratégie apporte de vraiment nouveau ?
Alors, elle identifie bien ses freins, c'est vrai. Mais elle propose une action phare qui pourrait changer la donne. La création de centres européens de dépistage avancé fondés sur l'IA.
D'accord. Et l'idée, c'est quoi ?
L'idée, ce n'est pas de tout centraliser à Bruxelles. C'est de créer un réseau pour déployer rapidement des outils diagnostiques de pointe partout, y compris dans les zones rurales, qui sont souvent les derniers services. Et en parallèle, il y a un réseau européen d'expertise pour que, disons, l'hôpital de Lisbonne puisse bénéficier des bonnes pratiques développées à Helsinki. C'est une tentative de créer une intelligence collective.
Et pour la recherche de médicaments ?
Là aussi, initiative marquante, le défi de découverte de médicaments grâce à l'IA. L'objectif, c'est de mobiliser les meilleurs chercheurs, les plus grosses puissances de calcul.
Pour simuler des molécules.
Exactement. Et, on l'espère, accélérer la découverte de traitements contre des maladies comme Alzheimer.
Cette idée de mutualiser les données et les expertises est puissante. Et on retrouve un peu la même logique, j'imagine, dans un autre secteur où l'Europe a un héritage industriel énorme, l'industrie manufacturière.
Absolument. On parle de 2,2 millions d'entreprises, 30 millions d'emplois. L'idée forte du document, c'est que l'IA peut être l'arme de la réindustrialisation. Et l'outil clé pour ça, c'est le jumeau numérique.
Le Digital Twin. On en entend beaucoup parler, c'est l'idée de créer une réplique virtuelle parfaite d'une usine, d'une ligne de production.
Voire de toute une chaîne logistique.
Pour pouvoir tout tester dans le virtuel avant de toucher au réel.
Oui, et c'est un outil formidable. Mais il ne faut pas sous-estimer le défi. Ça demande des investissements massifs, et surtout ça exige une culture du partage de données industrielles qui est encore très balbutiante en Europe.
Chaque entreprise garde ses secrets.
Jalousement. Alors, la stratégie propose une solution intéressante, passer par des tiers de confiance.
C'est-à-dire ?
Des espaces de données sécurisés où les entreprises pourraient mutualiser certaines informations pour entraîner des IA communes, sans pour autant révéler leur savoir-faire stratégique. C'est là que ça va être un vrai test.
On passe de l'industrie à un domaine encore plus sensible.
Ouais.
La défense, la sécurité, l'espace. Le document qualifie l'IA de « technologie de rupture critique ». Le langage est fort.
C'est un langage réaliste. L'IA change la nature de la guerre. Analyse de situation en temps réel, essaim de drones, maintenance prédictive. Le champ des possibles est immense.
Et l'initiative phare, ici ?
Elle est à la hauteur de l'enjeu. Le déploiement d'une infrastructure européenne stratégique hautement sécurisée. Le texte parle même de fabrique d'IA et de gigafabrique d'IA.
Attendez, gigafabrique d'IA ? Le terme est vraiment dans le document ?
Ça sonne très science-fiction.
C'est le terme exact. Et concrètement, ça veut dire quoi ?
Des super data centers ultra sécurisés.
C'est exactement ça. Il s'agit de construire des centres de calcul souverains sur le sol européen, avec des niveaux de sécurité militaire dédiés à l'entraînement des modèles d'IA les plus sensibles, pour la défense, l'observation spatiale.
L'idée, c'est de ne pas dépendre d'autres puissances.
Voilà, on ne peut pas confier la sécurité du continent à des infrastructures cloud contrôlées par des puissances étrangères. C'est le cœur de la souveraineté technologique dont on parlait au début.
Et ça ne concerne pas que l'armée. Le document parle aussi de sécurité intérieure.
Oui, et c'est logique. La cybercriminalité, la désinformation, le terrorisme, les menaces modernes utilisent déjà l'IA.
Donc nos forces de l'ordre doivent avoir les mêmes outils ? Elles ne peuvent pas se battre avec les outils du siècle dernier. L'IA devient indispensable pour analyser des masses de données, détecter des signaux faibles et anticiper les menaces.
C'est fascinant de voir à quel point la stratégie couvre des domaines différents. Et ce n'est pas tout, il y a même un volet sur la culture et la création. Ça peut paraître surprenant.
Et pourtant, c'est crucial. L'IA est déjà là, dans la post-production de films, les algorithmes de recommandation musicale, la numérisation du patrimoine.
Oui.
Mais ce qui est remarquable, c'est que le document n'élude pas le conflit qui couve. Il reconnaît l'inquiétude immense des créateurs.
L'inquiétude de voir leurs œuvres aspirées sans leur consentement pour entraîner des IA génératives.
Exactement.
J'imagine. C'est la crainte de voir son style, son travail, sa voix, être pillé pour nourrir une machine. Quelle est la réponse de la Commission face à ça ?
C'est une réponse en deux temps, un peu. Sur le fil du rasoir. D'un côté, on encourage l'innovation en finançant des micro-studios de production virtuelle.
D'accord.
De l'autre, on annonce une étude ciblée sur les défis juridiques du droit d'auteur. C'est une approche pragmatique.
Pragmatique ou une façon de botter en touche. Lancer une étude, ça peut aussi vouloir dire qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on essaye de gagner du temps.
C'est un risque, c'est vrai. Mais le sujet est d'une complexité folle. J'ai discuté récemment avec une illustratrice dont tout le style a été copié par une IA. Pour elle, ce n'est pas juste une question de droit, c'est la survie de son métier.
Bien sûr.
Le document a au moins le mérite de poser le problème sur la table. Il reconnaît qu'il n'y a pas de solution magique. Trouver un équilibre ici, c'est une nécessité absolue.
D'accord. On a vu les secteurs. Mais comme vous le disiez, la stratégie s'attaque aussi aux problèmes de fond. Et le premier, c'est celui des PME. On revient à notre chiffre de départ, 12,6%. Comment on fait décoller cette fusée ?
La solution phare, c'est de s'appuyer sur un réseau qui existe déjà. Les pôles européens d'innovation numérique. Il y en a plus de 250 partout sur le territoire.
Et l'idée, c'est d'en faire des guichets uniques de proximité pour les PME.
C'est ça.
Donc si je suis une artisane ou la patronne d'une petite boîte de logistique, je peux aller frapper à leur porte. C'est un peu comme un médecin généraliste de l'IA.
C'est une excellente analogie. L'objectif est exactement ça. Un lieu où une PME peut faire un check-up numérique, expliquer ses problèmes et recevoir des conseils sur mesure.
Pourriez-vous optimiser vos livraisons avec une IA, ce genre de choses ?
Oui. Cette technologie pourrait-elle vous aider à faire de la maintenance prédictive sur vos machines ? Ces pôles peuvent aider à tester des solutions, à trouver des financements, à former les équipes. L'idée, c'est vraiment de démystifier l'IA.
Et ça nous amène directement à l'autre grand défi, les compétences. La peur de la destruction d'emplois est partout. Pourtant, le document cite un chiffre intéressant. 67% des travailleurs européens qui utilisent l'IA estiment qu'elle les aide.
C'est un point clé. La vision de la Commission, ce n'est pas celle d'un grand remplacement par les machines. C'est une transformation du travail.
L'IA comme un copilote, pas comme un remplaçant.
Voilà. Mais pour que ce copilote soit efficace, il faut que tout le monde apprenne à s'en servir. D'où l'initiative principale, l'Académie des compétences en matière d'IA.
Une académie, ça sonne un peu pompeux. C'est quoi l'idée ?
L'idée est de créer des formations très concrètes, très pratiques, co-construites avec les industries. Pas de longs cours théoriques, mais des modules qui débouchent sur des micro-certifications reconnues.
Ah, d'accord.
Ça atteste qu'une personne sait utiliser des outils d'IA spécifiques à son secteur. On forme un mécanicien à utiliser une IA de diagnostic, pas à devenir un data scientist.
Et au-delà de la formation des travailleurs actuels, j'ai vu une autre initiative qui m'a semblé intéressante, le laboratoire d'entrepreneurs dans le domaine de l'IA. Il ne s'agit pas seulement de s'adapter, mais de créer.
Exactement. C'est là qu'on voit que la stratégie joue à la fois en défense et en attaque. L'idée du laboratoire, c'est de repérer les jeunes diplômés les plus brillants en IA et de les mettre en contact avec des mentors, des entrepreneurs chevronnés.
Pour les aider à monter leur boîte.
Voilà. C'est un incubateur à l'échelle européenne pour créer les futures pépites qui pourront rivaliser demain avec celles de la Silicon Valley.
On a donc un plan ambitieux, des initiatives phares, mais on connaît la musique. On a déjà vu des stratégies européennes grandioses qui ont eu du mal à se concrétiser. Qu'est-ce qui nous garantit que cette fois, ce n'est pas juste de la com ? Il y a un vrai mécanisme de pilotage derrière.
C'est la question à un million. Le document essaye d'y répondre avec un système de gouvernance à deux têtes. La première, c'est l'Alliance pour l'application de l'IA.
Un forum de dialogue ?
Un forum permanent, oui. Pour que l'industrie, la recherche, la société civile, les politiques se parlent. C'est là que les entreprises pourront dire « Votre initiative est super, mais sur le terrain, ça coince à cause de telle réglementation. » C'est le volant.
Et la deuxième tête ?
Le tableau de bord. C'est exactement ça. C'est l'observatoire de l'IA. Sa mission, c'est de traquer des indicateurs précis. Le taux d'adoption par pays et par secteur, l'évolution du marché du travail, le nombre de start-up.
Pour avoir des données objectives et voir si ça marche.
Voilà. Pour savoir si la stratégie fonctionne ou si elle déraille. Dans un domaine qui évolue aussi vite, une stratégie figée sur 5 ans est mortonnée. Ce duo Alliance-Observatoire est conçu pour permettre d'ajuster le tir en permanence.
Alors, pour revenir à notre question de départ, plan de bataille ou document poussiéreux ? Après cette analyse, on a l'impression que l'Europe se dote d'un plan très articulé pour devenir ce que le texte nomme un continent de l'IA.
Oui, et ce qui est frappant, c'est son pragmatisme. Il ne prétend pas être le meilleur partout, tout le temps. Il cible des secteurs où l'Europe a de vrais atouts. La santé, l'industrie, la défense, et où l'IA peut être un multiplicateur de puissance.
Et en même temps, il s'attaque aux fondations.
Exactement. Les compétences et l'accès pour les PME.
La vision finale est donc claire. Une IA européenne, souveraine, compétitive, mais aussi, et ça c'est la touche européenne, digne de confiance et alignée avec nos valeurs. La partie ne fait que commencer, mais au moins on dirait qu'il y a une feuille de route.
Absolument. Et pour finir, je voudrais laisser une dernière pensée, une question ouverte qui est sous-jacente dans tout le document.
Allez-y.
Le texte mentionne brièvement l'émergence des agents d'IA autonomes et la quête ultime de l'IA intelligence artificielle générale.
L'IA qui égalerait ou dépasserait l'humain ?
Oui. Alors la question est la suivante. En construisant brique par brique cet écosystème de données, de compétences, d'infrastructures pour l'IA d'aujourd'hui, l'Europe n'est-elle pas aussi, et peut-être sans l'avouer complètement, en train de poser les fondations pour jouer un rôle de premier plan dans la course à l'IAG de demain ? Et si c'est le cas, est-ce qu'on est vraiment prêt pour les implications vertigineuses qu'une telle avancée aurait sur notre société ?